On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Seigneur, que je voie !» Et Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, l'homme se mit à voir. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à Dieu. Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur Jésus.
Que cet évangile efface nos péchés. Seigneur, nous allons enfin retrouver l'Apocalypse. Et on voit bien que les premières lectures, c'est les invocations de Jésus ressuscité à l'Église, à son propre corps. Lui, il est dans la lumière. Il a toujours été dans la lumière, Jésus, remarque bien. Mais il est dans une lumière victorieuse. Et quand Jésus, quelle différence y a-t-il entre la vision béatifique de Jésus lorsqu'il était sur la terre avant la résurrection et la vision béatifique de Jésus après son pèlerinage terrestre, lorsque actuellement il se trouve en effet dans la résurrection? Est-ce qu'il y a une différence, à votre avis, entre la vision béatifique de Jésus dans son incarnation, si vous voulez, par exemple, de la croix, et la vision béatifique? Eh bien non, il n'y a aucune différence entre la vision béatifique de Jésus quand il était sur la croix, et quand il était petit, quand il était enfant, et la vision béatifique de Jésus actuellement. Il n'y a aucune différence. Il y a la même vision béatifique. On oublie souvent ça. On oublie souvent ça. Très souvent. Jésus voyait. Jésus voyait la gloire. Jésus voyait toute l'éternité. Jésus voyait le Père. Jésus le voyait en tant que Verbe. Jésus voyait qu'il inspirait l'Esprit Saint éternellement. Et Jésus le voit encore aujourd'hui. Alors quelle différence y a-t-il? Il y a quand même une différence. C'est qu'en effet, mais Jésus voyait dans les sommets de son intelligence. Dans les sommets de son intelligence, il voyait tout cela. Mais étant donné précisément que l'aveuglement dans lequel nous sommes et les difficultés que nous avons à être des artisans de paix, à être des doux, à être forts dans l'amour, c'est ça, être des doux. À être pur de parole, de pensée, de cœur, et d'âme, et de corps. Cette difficulté que nous avons à ne pas mentir tout le temps, cette difficulté que nous avons à ne pas être petit, simple, pauvre, humble. C'est important, on marque bien l'humilité, puisque dans l'humilité, comment est-ce que la grâce de Dieu peut s'emparer de nous. Plus, si on est un petit peu orgueilleux, la grâce ne peut pas venir, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place. Et alors c'est notre grandeur précisément d'être humble, parce que notre seule grandeur, c'est la grâce de Dieu. Notre seule grandeur, c'est que Dieu fasse tout à travers nous. C'est ça notre grandeur, c'est ça notre orgueil. Notre orgueil, c'est ça. Et alors du coup, si on s'aperçoit que Dieu effectivement fait des choses à travers nous, on est dans la confusion, on se dit, non, c'est pas possible ça. Et on le cache le plus possible. C'est l'humilité du saint qui est immédiatement. Bref, c'est curieux, vous voyez, toutes ces qualités, tous ces dons de cet esprit, qui sont pas là, enfin qui sont pas là. Hein. On n'y arrive pas. Bref, on est dans les ténèbres d'une certaine manière. Même nous, Jésus aussi était dans ces ténèbres. lorsqu'il faisait le pèlerinage terrestre. Il s'en rappelle, vous savez. Tiens, Jésus était humble, hein. Jésus était pur. Mais enfin, néanmoins, là, c'est ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans notre vie humaine, c'est que on ne peut pas être pur, humble, bon, tout seul. Lorsque autour de nous, et c'est ça la difficulté de ce pèlerinage terrestre, parce qu'autour de nous, il y a quand même le poids extraordinaire du mal. Et on est bien obligé de constater, on va dire trop vite que c'est autour de nous, que nous on est. Mais déjà, en oubliant, j'allais dire, que nous sommes pires que les autres, n'est-ce pas? Eh bien, supposons que nous ne soyons pas pires que les autres. Supposons que nous sommes mieux que les autres. C'est le cas de Jésus, n'est-ce pas? Bon, Jésus était mieux que les autres. Eh bien, quand même, supposons que nous ne soyons pas pires que les autres, que nous soyons bien, n'est-ce pas? Eh bien, le seul fait qu'il y ait le mal comme ça autour de nous, dans les ténèbres, ce seul fait-là nous met nous-mêmes dans une impression d'orgueil. Ça suffit pour nous mettre dans une ambiance d'orgueil. Ça suffit pour nous mettre dans une ambiance d'impureté. Ça suffit pour nous mettre dans une ambiance de découragement, de manque de force, d'amour. Ça suffit pour nous mettre dans une ambiance d'agressivité, parce que le propre du découragement et du manque de force dans l'amour, ça produit l'agressivité. Et Jésus, lui, était très sensible à ça. Et donc l'impression de moiteur était très forte. Elle était plus que forte, puisqu'elle était presque infinie. Voyez, et ça allait, c'était si fort comme impression en lui, que ça rejetait les effets de la vision béatifique uniquement à l'extérieur, enfin dans les parties plus élevées. Vous savez, notre intelligence, lorsqu'elle est notre vie spirituelle, notre considération, notre contemplation, notre vision des choses, quand on se tourne vers Dieu, on essaie de voir, quand on se tourne vers l'Eucharistie, on essaie de voir Jésus, quand on se tourne vers ce mari, on essaie de voir l'Esprit Saint dans la relation avec Dieu, on essaie de voir, lorsque vous voyez, on essaie de voir. Ce n'est pas l'intelligence qui réfléchit, ce n'est pas l'intelligence qui médite. L'intelligence qui réfléchit et qui médite, elle reste à l'intérieur. L'intelligence qui réfléchit et qui médite à l'intérieur de Jésus, elle était prise par la moiteur, comme nous. Pas parce qu'il était pourri, il n'a fait aucun péché, mais parce que le péché des hommes, il a pris entièrement sur lui. Sa sensibilité est incroyable. Toutes les impressions de tous les pécheurs, oui, mais assez fortes. Du coup, il n'y avait plus que ce qui dépassait le point de vue du corps. Vous voyez, quand vous contemplez, c'est l'intelligence qui dépasse un petit peu le point de vue du corps, c'est ça, la dimension contemplative en vous. La dimension contemplative, c'est l'intelligence qui dépasse un peu le corps, là. Ah oui, vous voyez, là, vous voyez Jésus. Vous voyez, quand vous voyez l'Eucharistie, vous essayez de voir Dieu dans le. Ça, c'est contemplatif, ça. Eh bien, dans sa contemplation humaine, dans son intelligence humaine, Jésus est dans la vision de la vie, autant dans sa vie terrestre et sur la croix qu'actuellement dans la résurrection. Et voilà. Pour nous, c'est facile de comprendre comment disait Jésus, sauf que notre contemplation à nous, pratiquement rien. Mais pas ce que je dis, alors là. Et c'est pour ça qu'il pouvait tenir le poids de toutes les souffrances humaines sans exception. Il s'additionnait en lui, dans ses impressions. Il s'est fait pécher pour nous. Il s'est fait pécher pour nous, sans avoir péché. Il s'est fait pécher pour nous. C'est affolant. C'est-à-dire que le poids d'amour qui était là, dans sa vision béatifique, c'est infini normalement. C'est pour ça qu'il n'était pas dans une transfiguration, dans un état de résurrection dès la conception. C'est un miracle. Et c'est un miracle, c'est le miracle qu'on appelle le miracle de la croix glorieuse. C'est-à-dire qu'il prend le péché, et le péché est le poids de la souffrance, de la croix, de la mort, et du péché est si intense dans ses impressions qu'il a le même poids, si vous voulez, celui-là la béatitude de la vision béatifique, c'est-à-dire quasi infinie. Donc dans toutes ces impressions, c'est la croix, c'est la souffrance, c'est la mort. Et dans l'estimation de l'intelligence, c'est la béatitude infinie, c'est grâce à ça qu'il ne meurt pas. C'est pour ça que pour mourir sur la croix, il faudra qu'il s'arrache par amour lui-même. Personne ne peut le tuer. Eh bien, c'est Jésus qui, une fois que toutes les autres parties potentielles de son corps, de sa sensibilité, de ses impressions, sont prises par cette béatitude de gloire, s'adresse à nous qui sommes encore dans cet état où on est un petit peu lourd à cause de notre péché, mais aussi à cause du péché du monde. Aussi à cause du péché du monde, tant mieux si on est lourd, dingue. Tant mieux. Génial, enfin, on a enfin une ressemblance avec Jésus. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait. Alors du coup, on peut lire l'Apocalypse et Jésus adresse aux sept églises, à ses membres, à ceux qui enfin vivent ce qui lui a vécu, même avec lui, pour lui, en lui, comme lui, inséparés de lui. Alors il leur adresse ces lettres-là. Un courage, un peu d'ardeur. Et rappelle-toi la première fois que tu aimes, quand tu aimes dans son principe, quand tu aimes de manière pure, reprends ça. Reviens dans la vie contemplative, toujours la progresser ça. Et c'est cette manière de revenir dans la contemplation, dans le lieu où on se réfugie pour penser le péché du monde et son propre péché dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit Saint. Relire l'Apocalypse. Jésus, hein. Courage. Et alors du coup l'Église dit oui, bah, Seigneur, merci parce que fais en sorte que je puisse avoir mon bonheur, mon allégresse, ma consolation, ma joie, mon amour, ma libération, ma légèreté, non pas dans le fait que je suis bien, mais dans le fait que je suis fidèle. Et c'est ça la prière que nous disons pour l'oraison d'aujourd'hui. Et de demain, et d'après-demain, la 33e semaine du semaine ordinaire, que je sois fidèle, que ce soit ça qui me mette le bonheur. Voilà, c'est mon bonheur, savoir que je suis fidèle. Et je suis fidèle par la foi. Ma fidélité, in fide. Je suis fidèle par la foi. Je suis fidèle par la foi. Et la foi n'est fidèle que par sa dimension contemplative. C'est pour ça que Jésus, vous voyez, quand l'aveugle de Jéricho s'approche de Jéricho, eh bien, il le guérit. C'est la foi. Jéricho, c'est le signal que, quand vous lirez l'évangile, et je vais arrêter là, c'est le symbole de dans l'Ancien Testament, c'est un des sept symboles de la Vierge Marie, la ville de Jéricho. Bon, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, on voit tout si bien. À l'intérieur de Jéricho, il y avait une femme. Elle a mis un fil rouge sur sa fenêtre. Toujours très attentive à la femme. On a fait le tour de tête. Et les murs sont écroulés. C'est très joli symbole sur le mystère de Marie et de sa femme.